Docteur Ibrahima Sossefa, vous êtes candidat au poste de directeur régional de l'OMS. Merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique.
Bonjour, président, et merci pour l'invitation.
Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé pour être candidat à ce poste?
Vous savez, je me suis toujours engagé dans la santé mondiale pour l'Afrique. Et j'ai commencé dans la lutte contre le paludisme, ensuite je me suis engagé dans les urgences, dans la lutte contre les épidémies. Et mon parcours m'a permis d'arriver au niveau mondial, mais mon focus et ma priorité ont toujours été l'Afrique. Donc, je pense que c'est un moment crucial pour l'Afrique en termes de leadership, parce que nous devons repositionner l'Afrique dans la santé mondiale, compte tenu des défis extrêmement importants qui continuent d'exister, et avoir un leadership fort et personne adéquate, donc, pour diriger l'OMS en Afrique, travailler avec les États membres, c'est important. Je vois ça comme une mission importante pour moi.
Alors, vous ferez face à plusieurs autres candidats, notamment proposés par le Rwanda, la Tanzanie, le Niger. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres candidats?
Permettez-moi tout d'abord de féliciter les autres candidats qui sont des collègues, des frères africains. Je suis convaincu qu'ils ont tous un amour énorme pour l'Afrique. Mais il est important de voir que les parcours et les profils ne sont pas les mêmes. Je vais résumer votre question en trois points. D'abord, en termes de leadership et de parcours, je suis le seul candidat qui a fait partie de ce qu'on appelle l'executive management team de l'OMS. Au niveau régional d'abord, je suis le seul. Ensuite, au niveau mondial aussi, je suis le seul candidat qui a fait partie de l'executive management team. Vous avez tous les sous-directeurs généraux et le directeur général lui-même. Et je suis le seul candidat qui a pu mener des réformes et des changements aussi bien au niveau régional qu'au niveau mondial avec un impact important au niveau des populations, que ce soit pour la lutte contre le paludisme, que ce soit pour la lutte contre les épidémies, que ce soit la lutte contre la pandémie. Et j'ai siégé plusieurs fois au Conseil exécutif des Nations Unies pour représenter le directeur général de l'OMS et j'ai présenté à deux reprises les thèmes de santé au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit pour Ebola au Congo, en zone d'insécurité, mais aussi pour la pandémie de la COVID-19. Et la seule autre fois où mon thème de santé a été présenté au Conseil de sécurité de l'OMS, c'était pour le VIH il y a plus de 20 ans. Mon deuxième point de différence, c'est l'expérience et les résultats dans les urgences. Je suis le seul candidat qui a pu diriger la lutte contre les urgences de grande envergure, régionale ou mondiale. Je vous rappelle qu'en 2014-2015, quand l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a inquiété le monde entier, j'ai été appelé par l'OMS pour diriger la lutte contre Ebola quand l'épidémie était hors de contrôle. Et nous avons pu, avec les pays, contrôler cette épidémie. La même chose s'est passée aussi en 2019, quand l'épidémie d'Ebola au nord du Congo, dans le Kivu, était hors de contrôle. J'ai été appelé par le secrétaire général des Nations Unies, le directeur général de l'OMS, pour aller sur le terrain. Je peux en donner beaucoup d'autres exemples pour les crises humanitaires au-delà de l'Afrique, en Afghanistan, en Ukraine, donc en Palestine, etc. Et il est important donc de tenir compte de cela. Et non seulement j'ai dirigé au niveau mondial et régional, mais j'ai été plusieurs fois en front line, sur le terrain, avec les équipes pour mener la vraie lutte. Et le dernier point de différence, c'est la formation et les capacités. J'ai un parcours assez particulier. Je suis médecin militaire à la base. J'ai été formé dans une école militaire très sélective. Donc, j'ai été formé à la rigueur et à travailler dans des conditions difficiles dès le jeune âge. Déjà à 20 ans, j'étais brevé parachutiste et j'opérais déjà avec les troupes d'élite. En plus de ma formation militaire, bien entendu, j'étais formé en santé publique, en épidémiologie au niveau le plus élevé. Mais aussi, j'étais formé en développement durable. Et cette formation donc multidisciplinaire me permet d'analyser les informations à travers les secteurs et d'avoir une vision beaucoup plus complète de comment aborder les problèmes de santé avec une approche multidisciplinaire en tapant les vrais déterminants de la santé.
Votre programme est intitulé « La santé pour tous et tous pour la santé ». En Afrique, il y a tellement de problèmes, il y a tellement d'enjeux. Est-ce que vous pensez, docteur, que c'est réaliste de penser qu'en Afrique, tout le monde aurait accès aux soins de santé modernes?
Ma vision est une vision de santé pour tous et par tous. Un fait fondamental, c'est que la santé est un droit fondamental. On ne peut laisser personne derrière nous pour dire qu'on ne peut pas assurer leur santé. Et cela, c'est parce que la santé est une condition sine qua non pour le développement et puis est essentielle pour la prospérité de l'Afrique. Donc nous voulons travailler avec les États, avec tous les secteurs pour nous assurer que les investissements venant d'autres secteurs aussi profitent à la santé et qu'on peut créer les meilleures conditions de santé pour assurer donc le développement du continent. Et pour cela, nous devons être ambitieux, nous ne devons pas nous limiter à des objectifs limités. Nous devons pouvoir investir dans, non seulement dans les politiques, mais dans les systèmes de santé pour améliorer la qualité des soins, au lieu de nous limiter à des situations où les élites vont aller dans les pays développés pour avoir des soins de qualité, et la population qui est défavorisée, elle essaie pour compte. Cela doit changer, parce que la santé, c'est un choix politique avant tout.
Votre programme est articulé autour de 5 points. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous présenter ces 5 points qui constituent votre programme?
La première priorité pour moi, c'est d'intégrer la santé dans toutes les politiques sectorielles et renforcer le système de santé afin que toutes les personnes puissent avoir accès à des soins de qualité. La deuxième priorité, c'est tout ce qui concerne la préparation et la réponse aux situations d'urgence. J'ai parlé tout à l'heure du nombre de personnes qui ont besoin d'intervention humanitaire, mais aussi les risques d'épidémie et de pandémie toujours là. Et les pays doivent être préparés dans le cadre de la prévention et la réponse à ces épidémies. Et mon parcours me permet donc de pouvoir aider les pays à le faire. La troisième priorité, c'est d'accélérer donc la réduction des disparités en matière de santé et de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Aujourd'hui encore, 72% des décès de femmes qui accouchent, ça se passe en Afrique. Nous devons travailler à éliminer des maladies qui peuvent être éliminées dans certaines zones. Le paludisme peut être éliminé dans certaines zones. Beaucoup de maladies tropicales négligées peuvent être éliminées. Et nous devons investir plus pour le faire. Et sur ce même point de priorité, nous n'allons pas laisser de côté les maladies non transmissibles. Tout le travail de promotion et de prise en charge des maladies transmissibles est important parce que nous devons utiliser une approche basée sur la personne. On ne peut pas aujourd'hui s'occuper des maladies transmissibles et attendre demain pour nous occuper des maladies non transmissibles. Et un autre point donc, qui est extrêmement important, c'est la modernisation et l'amélioration de l'intelligence et des systèmes d'information sanitaire. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la plupart des naissances et des décès ne sont pas enregistrés en Afrique. Cela veut dire qu'il se pose des problèmes de dénominateur. Aujourd'hui, nous devons pouvoir avoir des données correctes en utilisant les nouvelles technologies, mais aussi analyser les risques sur la base de nouvelles technologies, de nouvelles informations, y compris les risques liés au changement climatique.
Il s'agit là d'un vaste programme qui nécessitera forcément beaucoup de moyens techniques et financiers, surtout financiers. Alors, comment est-ce que vous ferez, docteur, si vous êtes élu, pour mettre en œuvre ce programme? Où trouverez-vous les moyens?
Il est extrêmement important, en parlant de financement, de maximiser déjà les financements domestiques, les financements endogènes des pays, avec des approches donc innovantes de financement dans le cadre de la santé, dans toutes les politiques sectorielles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et assurer une meilleure gouvernance, une meilleure transparence dans l'utilisation des ressources. Parce que si on augmente les ressources sans une gouvernance donc améliorée, les problèmes vont demeurer. Nous avons besoin aussi d'une meilleure coordination et d'un meilleur alignement des financements internationaux. Nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous avons Gavi, nous avons les fonds pandémie. Nous devons nous assurer que ces fonds sont bien coordonnés et de façon alignée aux priorités de pays, de telle sorte qu'on peut maximiser l'efficience. Bien entendu, au niveau de l'OMS, avec le rang d'investissement sur lequel nous avons travaillé, nous avons besoin de beaucoup plus d'intégration des financements, qu'on n'ait pas des programmes qui sont hyperfinancés, d'autres programmes qui sont laissés pour compte. Et en travaillant avec les pays sur l'ensemble de ces approches, nous pouvons assurer un financement beaucoup plus prévisible et beaucoup plus durable de la santé.
Alors, dans une certaine opinion africaine, l'OMS est parfois considérée comme une institution occidentale qui ne tient pas compte des réalités africaines, notamment de la médecine traditionnelle africaine qui reste très populaire et très intégrée, notamment dans les zones rurales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui ont cette vision des choses?
C'était une réalité dans le passé, parce qu'il faut le rappeler, l'OMS a été créée dans un contexte colonial, de même que les Nations Unies. Donc les approches étaient plus des approches verticales où des interventions étaient donc décidées et imposées par population. Et ça a beaucoup changé depuis lors parce que aujourd'hui vous avez des cadres de haut niveau, donc africains, que ce soit dans les pays ou au niveau international, et qui n'ont pas grandi dans ce contexte colonial. Et aujourd'hui, la base essentielle de notre travail, c'est l'engagement politique allié au leadership, au niveau, l'engagement communautaire allié à l'engagement politique. Et toutes nos approches d'intervention sont basées sur l'appropriation par les pays et par les communautés. Et aujourd'hui, si vous regardez un domaine tel que l'épidémiologie, les meilleurs experts, les meilleurs épidémiologistes sont aujourd'hui en Afrique. Et parmi ces meilleurs experts, j'en ai beaucoup formé. Revenons sur la médecine traditionnelle. Donc, c'est une priorité extrêmement importante pour l'OMS. En Inde, le directeur général de l'OMS a lancé un centre collaborateur de l'OMS pour la médecine traditionnelle. Et en Afrique, nous avons beaucoup de pays qui investissent dans la médecine traditionnelle, dans la recherche. J'en ai vu au Mali, où j'étais représentant de l'OMS, au Sénégal, en Tanzanie, au Nigeria, à Madagascar. Et c'est aujourd'hui l'occasion, donc, de renforcer la recherche, y compris pour la médecine traditionnelle.
En forme, beaucoup d'infirmiers, de médecins, de personnels médico-sanitaires, mais qui n'hésitent pas à partir, servir ailleurs à cause des mauvaises conditions de travail, des mauvais salaires. Est-ce que vous avez des propositions concrètes pour essayer d'atténuer, sinon de stopper ce phénomène qui cause du tort à l'Afrique?
C'est une question très importante. La fuite des cerveaux touche énormément les pays africains et aggrave le déficit déjà important du personnel de santé, alors qu'il bénéficie aux pays développés, qui voient le nombre de personnels qualifiés augmenter d'année en année grâce à cette migration. Mais en même temps, les gens sont libres de voyager et de migrer. C'est une question de droit de l'homme. Il faut maintenant comprendre les facteurs qui poussent le personnel de santé à migrer. Il y a des facteurs d'incitation qui sont liés à des problèmes au niveau des pays, des raisons financières, des opportunités de carrière qui sont limitées, les mauvaises conditions de travail et une gestion pas du tout transparente des ressources des femmes, mais aussi l'instabilité politique, la guerre et les violences. Donc, et de l'autre côté aussi, dans les pays d'accueil, il y a des facteurs d'attraction qui, encore les raisons financières, les gens sont mieux payés là-bas, des meilleures opportunités de carrière, des meilleures opportunités pour leurs familles en termes de scolarisation, de conditions de vie et aussi un recrutement actif venant de ces pays. Cela veut dire que pour régler ce problème, il faut travailler aussi bien avec les pays africains qu'avec les pays développés pour donc avoir des politiques qui nous permettent d'améliorer les conditions de travail du personnel de santé, mais aussi donc avoir une bonne gouvernance dans ces pays. Ce n'est pas seulement un problème lié à la santé parce que la migration, elle est complexe. Donc, il faut faire beaucoup de travail dans le secteur de la santé, mais aussi avec les autres secteurs pour assurer un minimum d'accès aux services sociaux de base, un minimum d'avenir pour les populations africaines.
Est-ce que vous avez un mot pour ces pays-là occidentaux et grands financeurs, ceux-là qui influencent d'une manière ou d'une autre, qui apportent une contribution déterminante dans la construction et la gestion du système sanitaire international?
En parlant des pays partenaires et donateurs, je vais commencer par la recherche. Les États-Unis, c'est le pays où il y a plus de chercheurs qui collaborent avec l'OMS et plus de 100 collaborateurs. Donc, c'est un pays extrêmement important en termes de recherche et de renforcement des capacités, en termes de génération de nouvelles connaissances qui nous permettent de développer de nouveaux outils pour la santé. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne aussi. Pendant la pandémie de la COVID-19, tous les tests qu'on a utilisés en Afrique dans le premier temps ont été fabriqués en Allemagne avec l'hôpital de la Charité, qui est un centre collaborateur de l'OMS. Ça, c'est des exemples concrets. Pour revenir sur les États-Unis, l'autre aspect important pour moi, c'est le leadership mondial en santé. Sur des questions telles que le règlement sanitaire international et la sécurité sanitaire, la contribution des États-Unis est extrêmement importante dans ce domaine. Et finalement, le financement, comme vous l'avez si bien dit, juste si on prend un exemple juste comme PEPFAR, quand on regarde, qu'on compare entre 2004 et 2023, donc le financement est passé de 1,9 milliard de dollars à 6,9 milliards de dollars en 2023, rien que pour PEPFAR, y compris le financement au Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc c'est des financements extrêmement importants, mais nous avons besoin que ce financement, avec d'autres, tels que les fonds pandémiques, Gavi, soit donc coordonnés, alignés pour vraiment renforcer le système de santé dans les pays, pour nous permettre d'aller à des modèles qui sont beaucoup plus durables. Et cela doit compléter le financement domestique qui est la responsabilité politique de chaque État membre.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique.
Merci à vous pour l'invitation.